Football maintenant, depuis le temps que Bruno Eppel et moi, on se demande qui est la meilleure équipe dans la NFL. Est-ce qu'on a eu un début de réponse hier avec la victoire des Chargers de Los Angeles contre les Chiefs à Kansas City? Une victoire avec une empreinte de panache alors que les Chargers ont décidé de pas se contenter de pousser le match en prolongation, mais d'y aller pour un converti de 2 points et enlever toute chance aux Chiefs de reprendre le ballon. Bruno Eppel est avec nous. Bonsoir, Bruno.
Hey, salut, ça va bien. Écoute, non seulement on sait pas qui est la meilleure équipe, mais tu sais, on se parlait de la défaite des Saints il y a quelques semaines, puis on disait, est-ce que ça relance le débat de qui sont les favoris pour le Super Bowl? Ben hier, là, on finit, on est tout mêlé, là. À l'arrivée des éliminatoires dans quelques semaines, on est tout mêlé, parce que semaine après semaine, il y a des équipes comme les Chargers qui arrivent puis qui battent une équipe comme les Chiefs chez eux dans un moment très important de la saison. Quelle saison de la NFL on a? Moi, je te dis, là, quelqu'un qui a de prédire qu'il va gagner le Super Bowl après ce qu'on vient de voir hier, puis ce qu'on a vu des Saints et des défaites qu'ils ont eues il y a quelques semaines, je m'excuse, mais on ne sait plus qui est la meilleure équipe dans la NFL présentement.
Mais es-tu d'accord pour dire que de toutes les bonnes équipes, les Chargers étaient peut-être les plus sous-estimés?
Absolument. Oui, mais les Chargers étaient de loin là, dans l'américaine. Quand on parlait du carré d'or, on les rentrait dedans, mais on les rentrait quasiment par défaut. On disait, OK, il y a les Steelers, il y a les Chiefs, il y a les Pats, et il faut en rentrer un autre, on va rentrer les Chargers. Mais là, avec la défaite des Chiefs, et surtout la belle victoire des Chargers, on se dit, aïe, il faut les prendre au sérieux, parce qu'il y a 2 semaines, ils ont fait le coup aux Steelers. Ils sont revenus de l'arrière à Pittsburgh, sont allés battre les Steelers dans un match extrêmement important. 2 semaines plus tard, ils se présentent à Kansas City, le stade le plus bruyant de la NFL, et ils refont le même coup aux Chiefs, soit dit en passant, en n'ayant pas leur porteur de ballon numéro 1, à Melvin Gordon, et en ayant perdu Keenan Allen, le receveur numéro 1, dès le premier quart du match. Wow! Toute une équipe de football. Moi, je m'excuse, mais les Chargers, présentement, sont à prendre au sérieux.
Voilà pour le match d'hier. Ce week-end, maintenant, un des matchs qu'on va regarder attentivement, c'est celui entre les Eagles et les Rams. Les Eagles ne peuvent pas perdre. Et c'est le retour de Nick Foles. Viens pas me dire qu'il va répéter les exploits de la saison dernière. C'est pas possible, Bruno.
Moi, je pense pas que ça va se reproduire. Puis la raison est simple. Pas que Nick Foles est moins bon, mais les Eagles sont moins bons autour de ce qu'on a besoin de faire par la voie aérienne. On n'a plus d'attaque au sol. N'oublions pas là qu'on a laissé aller le Garrett Blunt. On a perdu notre porteur de ballon numéro 1. Présentement, c'est une recrue du nom d'Adams qui est en champ arrière. Clement, on n'a pas vraiment de porteur de ballon capable d'être un numéro 1 dans la NFL dans le champ arrière. Ce qui était notre pain et notre beurre en attaque quand Nick Foles a pris la relève de Carson Wentz, on courait pour mieux passer. Là, on ne peut plus faire ça. Fait que Nick Foles va se retrouver avec beaucoup, beaucoup de pression. Et la défense est une passoire. La tertiaire est amochée. Moi, je pense que c'est la fin pour les Eagles. J'ai bien hâte de voir, là, mais en plus, on s'en va jouer contre les Rams à Los Angeles, qui viennent de subir une ratelée, Mario, contre les Bears. Sean McVay est sorti du match en disant à tout le monde qui voulait bien l'entendre, « Je vais apporter les correctifs. Ça ne se reproduira plus. » Je pense que les Rams vont exploser les Eagles. Moi, c'est mon avis, là, le match qui s'en vient dimanche soir, là, un match aux heures de grande écoute, je comprends tout ça, mais moi, je favorise les Rams et par beaucoup.
Mais le match de la fin de semaine, pour moi et bien des observateurs, sera celui entre les Steelers et les Patriots. Mm-hmm. Écoute, les Steelers, rien ne va plus. Tu me parlais dans notre discussion qui a précédé le moment où on se retrouve en onde que tu as l'impression que rien ne va plus dans le vestiaire de cette équipe-là également.
Ouais, parce que les Steelers, là, je l'ai parlé tantôt, les Chargers, ils ont battu il y a 2 semaines. Ça, c'était leur 2e défaite d'affilée. Là, on a perdu contre les Raiders d'Oakland. À partir de perdre contre les Raiders d'Oakland, faut que tu le fasses, là, cette année.
Oui.
C'est une équipe qui a pas beaucoup de talent. C'est une équipe qui se cherche. On est allé perdre ce match-là du côté des Steelers. Big Ben a commencé par parler contre Antonio Brown. On a eu l'histoire de Le'Veon Bell en début de saison qui a attiré beaucoup, beaucoup d'attention dans ce vestiaire-là. On pensait qu'on s'en était sorti. Et là, la semaine passée, Big Ben se blesse durant le match. À la fin du match, revient pour essayer d'être le sauveur. Ça fonctionne pas. On perd contre les Raiders. Puis à la fin du match, il dit, j'attendais le hockey de mon entraîneur-chef avant de retourner dans le match. Il a envoyé son entraîneur en dessous du boss, là, je m'excuse, mais tu sais, t'es un carrière de concession, là. T'as pas besoin que ton entraîneur-chef vienne te voir. Si toi, t'es prêt à jouer, tu vas voir ton entraîneur-chef, là, puis tu dis, hey, je veux rembarquer dans le match, et tu vas rembarquer. moi, personnellement, je pense que Big Ben, présentement, n'est pas un bon leader. Je pense qu'il y a un problème dans ce vestiaire-là. On le camoufle bien. Mais ce match-là contre les Patriots est énorme. Si les Steelers l'échappent chez eux, encore une fois, contre les Patriots qui ont le numéro, ceci étant dit, des Steelers depuis quelques années, là, je pense que Tom Brady est sur les 10 derniers matchs, il y a 8 victoires, 2 défaites contre Big Ben, qui vont s'amener eux autres en voulant venger leur échec contre les Dolphins la semaine passée. Si on l'échappe du côté des Steelers, moi, je ne serais pas surpris si on manquait les éliminatoires par la suite. Parce qu'on a un calendrier qui est quand même très difficile qui s'en vient pour eux.
Il n'y a pas d'enjeu de classement pour les Patriots, sauf que peut-être un enjeu de confiance pour arriver avec un certain allant, une certaine dose de confiance justement en série.
Tu as raison, parce que les Patriots, la réputation, c'est d'être bon au mois de décembre. Là, on vient d'échapper un match qu'on avait dans nos mains pour débuter le mois de décembre. Je serais surpris de voir Bill Belichick et les Patriots, qui, soit dit en passant, vont arriver avec un alignement complet. Là. Ils n'ont pas de blessés. Tout le monde est en santé du côté des Patriots. Je comprends que ça va sur la route à Pittsburgh, une équipe qui n'a pas le choix de gagner, mais les Pats sont connus pour être une bonne équipe au mois de décembre. Je peux pas croire qu'ils vont perdre deux matchs d'affilée au mois de décembre. Je serais très surpris de voir les Patriots échapper ce match-là.
Et les Cowboys qui vont tenter de consolider leur emprise sur le premier rang de leur division?
Ouais, puis les Cowboys,
ils s'en vont
jouer contre les Colts. Les surprenants Colts. Je m'excuse, là, mais moi, les Colts, je les voyais même pas dans les éliminatoires. Puis là, on se retrouve à 3 semaines de la fin de la saison, à 3 matchs de la fin de la saison, puis on est dans la course, pas à peu près du côté des Colts.
Oui.
Les Cowboys sont, tant qu'à moi, une des équipes présentement de l'heure, une des équipes les plus équilibrées en attaque, qui ont une défense qui joue le meilleur football qu'elle a joué depuis plusieurs années. Mais qui se présente contre les Colts, puis moi je les regardais, on n'a pas fait de match des Colts RDS cette année. Fait que j'étais obligé d'aller voir les statistiques. Quand tu regardes les statistiques des Colts, leur faiblesse depuis plusieurs années, c'est leur défense. Leur défense est dans le top 10 de la plupart des statistiques. Andrew Luck est venu raviver vraiment cette attaque-là qui manquait beaucoup de dynamisme.
Mm-hmm.
Et là, on a ce match-là à la maison. Moi, je pense que ça va être un des matchs les plus serrés du week-end. Un match aussi que les deux équipes n'ont pas le choix de gagner. Pour moi, c'est pas loin d'être l'affrontement de la fin de semaine si on parle pas forcément de ce qu'on regarde comme équipe, mais plutôt de ce qu'on va avoir comme produit sur le terrain. Je pense que c'est un match qui va se décider à la fin du match.
Et une nouvelle en terminant concernant les Alouettes de Montréal, le retour de Eugene Lewis ici avec l'équipe. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno?
Ben, c'est une bonne nouvelle. Puis les Alouettes, on avait besoin de ramener Eugene Lewis. On a eu des problèmes à la position de receveur de passe cette année, mais s'il y a eu une bonne nouvelle, c'est qu'on avait Eugene Lewis. C'est de loin le jeune receveur prometteur chez les Alouettes. On n'avait pas le choix de le ramener. Puis là, il faut bâtir et ramener un paquet de monde parce que on n'a pas eu énormément de bons jeunes joueurs du côté des Alouettes. Là, Eugene Lewis, c'est une belle signature. Moi, je veux en voir plus arriver et qu'on commence la saison avec une équipe qui a une chance d'être compétitionnée semaine après semaine. Eugene Lewis est le premier de plusieurs pas qui doivent être faits dans la saison morte.
Bruno, un gros merci. Un bon week-end de football. On se reparle lundi.
Merci, Mario. Salut tout le monde. Bye.
Bye-bye. C'était donc Bruno Eppel. Et au retour de la pause, on s'entretient avec Anne-Catherine Tanguay qui fait le bilan de sa première année sur la LPGA. À tout de suite.